à vous d'être venu. Je vais faire une petite présentation donc, de André, François et Isabelle. Donc, je vais commencer par Isabelle.
Mmh.
Donc, Isabelle Ballester,
donc,
plusieurs casquettes, hein, essayiste, traductrice, illustratrice et auteur, bien sûr. Donc, elle a écrit avec André François Les Nombreuses Vies de Dracula.
Oui, il faut qu'il y
voilà, édité au Mouton Électrique, qui est une maison d'édition lyonnaise qui se trouve dans le 3e rayon. Voilà. Et puis, donc, de nombreux articles également pour Les Moutons Électriques. Et plus récemment, un essai justement sur la Bikit. Donc, qui s'intitule. Comment ?
Une contribution.
Oui, une contribution. Voilà, qui s'intitule Bikit, l'amour des vampires. Et également édité chez Les Moutons. Voilà. Quant à André François, donc là, tu es directeur littéraire des éditions Les Moutons Électriques. Donc tu as participé à plusieurs essais et anthologies, et notamment Les Nombreuses Vies de Sherlock Holmes, en plus des Nombreuses Vies de Dracula. Également un dictionnaire féerique et puis une cartographie du merveilleux. Voilà. Alors, ma première question, hein, ça consiste à un petit peu éclairer le public sur Les Nombreuses Vies de Dracula. Je me suis demandé en quoi consiste-t-elle, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et sinon, en quoi Dracula, justement, s'adapte bien à cette collection Les Nombreuses Vies de ?
Alors, on a créé, lorsqu'on a créé Les Moutons Électriques, on a créé une collection qu'on a appelée la Bibliothèque Rouge. Pourquoi la Bibliothèque Rouge ? Parce qu'on se souvenait évidemment de la Bibliothèque Verte et la Bibliothèque Rose, hein, à la base de l'imaginaire adolescent en France. Et rouge, parce que rouge couleur crime, rouge couleur sang. On a débuté avec des volumes sur Arsène Lupin et sur Sherlock Holmes. Et puis, bon, la collection a évolué. Et puis, quand on est arrivé à une quinzaine de volumes de la collection, ou je ne sais plus, dans ces eaux-là, à peu près, on continuait à réfléchir à ce qu'on pouvait explorer. L'idée de la collection, c'est d'écrire à chaque fois une biographie d'un grand personnage de la littérature populaire comme s'il avait existé. Et donc, étudier les textes mettant en scène ce personnage, les regarder vraiment à la loupe. Ça s'est fait, c'est traditionnel de faire ça sur Sherlock Holmes. En anglais, ça s'appelle The Game. Ça se fait depuis les années 30, carrément. Et donc, en fait, on a adapté The Game à l'ensemble des personnages, des grands héros. Donc on en a traité quantité, comme Hercule Poirot par exemple, ou comme Maigret, ou comme James Bond. Et puis on a continué à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait traiter comme personnage pour faire évoluer la collection. Et puis rouge sang comme le crime, mais c'était aussi le rouge du sang, et on n'avait pas encore abordé dans la collection Bibliothèque Rouge. On n'avait pas encore abordé le fantastique, en fait. On était toujours dans le roman policier, quasiment, ou dans l'espionnage. À cette époque, on est revenu sur l'idée de faire un volume sur Conan le Barbare. C'était une idée qu'on avait depuis le départ. Là, on a trouvé un auteur pour le faire, donc on a sorti ça. Et puis, je me suis dit, Frankenstein, Dracula, voilà deux grands mythes qu'il faudrait traiter. Et puis, un après-midi, Isabelle était à la maison avec un stagiaire qui bossait pour Les Moutons à l'époque. Et puis, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, il y a quelques idées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, je ne sais pas pourquoi, Isabelle a décidé, m'a dit tout de suite, « Ouais, moi, je veux faire le Dracula.
Voilà. »
Et puis, j'ai trouvé personne pour faire le Frankenstein, alors je l'ai fait moi-même. Rigolez pas, je m'y attendais carrément pas à faire celui-là. Et je trouve que c'est le meilleur bouquin que j'ai écrit. Jusqu'à présent, comme quoi être obligé, poussé comme ça. Il est très très. C'est un bouquin très court, parce qu'il n'y a évidemment qu'un seul roman. Hein. Il n'y a pas beaucoup de textes secondaires autour de Frankenstein. Je trouve que c'est l'essai que j'ai fait que je trouve le mieux pour l'instant, à part le Sherlock Holmes qu'on va publier là incessamment. Qui là est un pavé, et là c'est le contraire, c'est un pavé monstrueux, sur lequel on s'est bien éclaté. Et puis, alors pourquoi tu as voulu faire le Dracula, Isa ?
Pourquoi j'ai voulu faire le Dracula ? D'abord, il y a l'aspect
je vais dire mythologique qui m'intéressait. Dracula, c'est pas un vampire comme les autres, c'est pas un vampire anonyme, c'est pas un vampire inconnu. C'est justement le vampire auquel on pense quand on évoque un vampire, on pense à Dracula. Et il y avait vraiment cet aspect-là qui m'intéressait. Pourquoi est-ce qu'une création d'un auteur, à un moment donné, est devenue quelque part un maître étalon ? Donc ça, c'était intéressant. Et après, il y avait autre chose qui m'intéressait beaucoup dans le personnage de Dracula, c'est que pour le coup, c'est également un personnage historique, puisqu'on revient sur Vlad Tepes, qui est un voïvode valaque, donc qui était connu comme Kazi Gloubey, le voïvode en pâleur, le prince en pâleur. Et ça, c'était intéressant. Comment est-ce que Bram Stoker, du coup, à une époque où les moyens de communication n'existaient quand même pas comme maintenant, où c'était peut-être probablement pas facile d'aller piocher dans l'histoire des pays de l'Est, qui même à l'heure actuelle, c'est pas facile de retrouver l'histoire des pays de l'Est, je vous le garantis, c'est très compliqué. Ils ont une géopolitique qui est particulièrement complexe, particulièrement à l'époque où Vlad Tepes existait, puisque la Valachie se trouvait vraiment prise en étau entre la Hongrie catholique et l'Empire ottoman. Donc la Valachie était en perpétuelle négociation pour ne pas se faire manger par l'un ou par l'autre. Donc du coup, il y avait tout cet aspect historique-là. Comment est-ce que les vampires, en plus, en termes génériques, s'inséraient là-dedans ? Puisqu'effectivement, les vampires, comme Adrien l'a bien rappelé tout à l'heure, sont une... Alors peut-être pas une création des pays de l'Est, mais en tous les cas, sont quand même bien marqués dans ces pays-là, puisqu'on a des typologies de vampires qui existent aussi dans la Grèce antique, avec les striges, les empuses, les ghouls aussi, qui vont exister à d'autres moments. Mais c'est vrai que le vampire hongrois, transylvanien, valaque, moldave, est quand même le vampire de référence. Donc c'est vrai que du coup, le personnage de Dracula m'intéressait pour ça, pour son ancrage historique. Et c'est vrai que c'était quand même, on peut dire que c'est... Alors, par rapport à ce que disent Elisabeth Campos et Richard Denolan, on peut considérer... Vlad Tepes, de mon point de vue, comme un vampiroïde, quelqu'un qui avait quand même un goût du sang extrêmement marqué, un goût de la souffrance, un goût de la torture. Bon, il a eu aussi une histoire personnelle assez, assez compliquée, dans un contexte politique et historique assez mouvementé. Donc il y a cet aspect-là, et après, comment est-ce que de ce personnage historique très polémique, on arrive à faire une émergence d'un mouvement littéraire ?
Alors, vampiroïde, j'explique, c'est parce que dans le volume Vampire là, qu'on a publié, puisqu'on vient publier ces deux volumes-là. L'un des co-auteurs, Elisabeth Campos, c'est une criminologue. Et donc, il y a une partie qui nous a en fait tout de suite, d'ailleurs, décidé à faire ce volume-là. C'est la partie criminelle. Et donc, elle étudie, fait un panorama des tueurs en série et autres criminels qui se sont pris vraiment pour des vampires. Donc, c'est ce qu'elle appelle un vampiroïde.
Justement, vous parliez de... du personnage de Vlad Tepes. Comment vous expliquez ce glissement justement du personnage historique jusqu'au personnage littéraire pour que tel que ça actuellement en fait on puisse pour beaucoup de gens du moins difficilement faire la différence entre les deux quelque part. Qu'est-ce qui a permis justement qu'un personnage historique comme celui-ci spécifiquement devienne une icône fantastique à l'heure actuelle?
Alors, pour avoir travaillé le personnage historique de Dracula à l'occasion des nombreuses vies de Dracula, et je vous précise que je ne me revendique absolument pas comme une spécialiste, mais plutôt comme une amatrice un peu dilettante par moment, je ne suis pas sûre qu'il y ait un tel rapprochement que ça entre le Dracula historique et le Dracula littéraire. Alors, il y a des rapprochements évidents, oui, ils sont des pays de l'Est, effectivement, Vlad Tepes est né à Séguissoara, qui est en Transylvanie. Après, Vlad Tepes était voïvode valaque. Il n'était pas en Transylvanie, son château n'était pas en Transylvanie, même s'il a voulu récupérer des fiefs transylvains au travers de son allégeance, enfin de l'allégeance valaque à la Hongrie, ce qui est un petit peu différent. Oui, c'était un aristocrate, un noble. Voilà, on est à peu près sur, je crois que c'est à peu près le noyau dur de ce qui va faire le glissement entre le Dracula historique et le Dracula littéraire. Puisque même dans le Dracula littéraire, c'est quand même, bon, c'est un vampire, c'est un monstre froid, mais qui n'a pas, à mon sens, la même volonté sadique, le même goût de la souffrance qu'on peut trouver chez le Dracula originel, chez le Vlad Tepes originel. Donc je crois qu'il y a vraiment une espèce de filtre qui a été fait au travers de la littérature, au travers d'un ensemble de choses. En plus, ça se passe effectivement, Dracula a été écrit par Bram Stoker, donc en Angleterre, avec tout le goût du fantastique que peuvent avoir les anglo-saxons, avec aussi toute la résurgence des romans gothiques, des romans noirs. Et il y a vraiment, pour moi, un filtre romantique, un filtre quasiment poétique, littéraire, qui se fait par rapport à la réalité. Après, comment Bram Stoker en est arrivé à piocher dans l'histoire de Vlad Tepes, c'est simplement parce qu'il a rencontré un professeur du nom de Arminius van Berry, qui était hongrois, je crois, qui était hongrois et qui lui a donc éclairé sur cet aspect des pays de l'Est. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, en Angleterre, tout ce qui était déjà allemand, c'était déjà l'ennemi, l'exotisme, des choses comme ça. Donc du coup, placer son personnage en Transylvanie, en Valachie, en Moldavie, c'était vraiment lui donner un caractère exotique qui légitimait quelque part son existence et sa production.
Il faut savoir qu'à l'époque, donc on est au 19e, les Anglais ont littéralement inventé les Balkans. C'est-à-dire qu'ils ont inventé, dans leur littérature, une certaine image d'une sorte d'Orient en Europe. C'est-à-dire toute l'Europe centrale, en fait. Cette Europe qui était ou y avait été en partie occupée par l'Empire ottoman. C'est Dracula, c'est le prisonnier de Zenda. Il y a plein d'œuvres comme ça qui inventent une espèce, mais ça a réellement... Et c'est fascinant d'ailleurs parce que c'est la fiction qui influe sur la réalité. Il existe des études sur le fait que réellement l'image projetée par l'Empire britannique de qu'est-ce que c'était que cet Orient européen a influencé sur la manière dont les Balkans, l'Europe centrale, s'est lui-même envisagé. L'image que s'est construit l'Europe centrale était influencée par l'image de fiction qu'on pouvait avoir dans Dracula, dans Le Prisonnier de Zenda et dans plein d'œuvres plus ou moins obscures maintenant. Donc ça, c'est très curieux. Ce qui est très curieux aussi, c'est donc ce professeur hongrois dont que tu viens de citer, le professeur Arminius van Berry. Il est curieux pour plein de raisons. C'était un linguiste hongrois. Il parlait un nombre extraordinaire de langues. Il a étudié toute la culture de cet Orient européen. Il a aussi étudié l'Orient proprement dit, le Proche-Orient. C'est le premier occidental à s'être introduit dans la Mecque. Avant Richard Burton, c'est le premier à se déguiser en arabe, à parler tellement couramment les dialectes arabes qui peut se faire passer réellement pour un croyant et se rendre à la Mecque. Ce Arminius van Berry, il s'est rendu deux fois en Angleterre officiellement pour faire des tournées de conférences. C'est lors de la première tournée de conférences qu'il a rencontré Bram Stoker et que Stoker lui a posé des questions pour se documenter un peu sur cet Orient mystérieux, ce très proche Orient mystérieux. Curieusement, c'est amusant, van Berry était un espion de la couronne britannique. C'est donc vraiment un personnage historiquement tout à fait étonnant que Arminius van Berry. Et c'est évidemment sur van Berry que Stoker s'est basé pour le personnage de Van Helsing, n'est-ce pas, le professeur allemand spécialiste de la lutte contre les vampires. Et hollandais, pardon. Bien sûr, hollandais. Et d'ailleurs, Van Helsing dit... Dans le texte de Dracula, il dit qu'il a été un disciple, et on comprend de qui, on comprend que c'est de van Berry en l'occurrence. Il a été... je disais que dans la Bibliothèque Rouge, là, un des premiers volumes était sur Sherlock Holmes. Là, on vient de refaire un autre volume sur Sherlock Holmes, trois fois plus gros, un pavé énorme, et en tout réétudiant à nouveau. Et j'ai eu une révélation... j'étais super content de moi. Il y a un moment, Watson, j'étais content de moi parce que personne ne l'a dit avant. Puis là, quand je l'ai dit, c'est un bouquin que j'ai coécrit avec Xavier Mauméjean. Et quand j'ai dit à Xavier, regarde ce que je viens de trouver, il m'a dit, putain, mais c'est évident. Pourquoi personne n'y a jamais pensé? Et alors, j'explique. Watson, à un moment, plein de fois, Watson dit, hop, il y a eu telle affaire. Alors, il y a des tas d'enquêtes de Sherlock Holmes que Watson ne raconte pas. Mais il dit, ah oui, c'était après telle enquête, ou à l'époque, on a fait telle et telle et telle enquête. Et là, pour l'instant, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle nouvelle c'est, il cite tout un tas d'enquêtes qu'ils auraient fait ensemble, dont celle de comment ça s'appelle, comment il dit ça exactement, de Van Berry et de sa de Van Bury, Van Bury et sa jambe en aluminium. Et en fait, la révélation que j'ai eue, c'est que j'ai compris qu'est-ce qui avait été l'inspiration de Conan Doyle, l'auteur. À l'époque où il a écrit cette phrase-là, en fait, c'est une plaisanterie de sa part, c'est un clin d'œil. Le professeur Arminius Vanbury était en conférence en Angleterre et en Écosse. Conan Doyle a vu une conférence de Vanbury à Édimbourg, d'où le criminel, je ne sais plus comment c'est, Vanbury ou Vanbury, enfin bon, il a légèrement déformé le nom. Quant à la jambe en aluminium, c'est un truc qui a toujours interloqué tout le monde, parce qu'il faut savoir que l'aluminium, à l'époque, était le métal le plus cher du monde, le plus rare qui soit. Bon, ça n'a pas duré, puisque très rapidement, on a mis au point un procédé industriel pour fabriquer de l'aluminium. Néanmoins, à l'époque, l'aluminium, l'or ou le platine, à l'époque, c'était à côté, c'était de la gnognotte. Hein. Le hocher du prince impérial français, donc le fils de Napoléon III, dedans, il y avait des olives en aluminium. Parce que, waouh, c'était super riche, quoi. Ils avaient mis du platine, de l'argent, de l'or et de l'aluminium. Et donc, une béquille en aluminium, dans le genre improbable. Et en fait, c'est un jeu de mots, et c'est un jeu de mots sur le prénom de Vanbury, Arminius, Arminius Aluminium, et parce que Vanbury, effectivement, avait une béquille. Voilà. Voilà. C'est vraiment une anecdote, hein, mais comme on avait travaillé sur Dracula, du coup, je savais qui était Arminius Vanbury, et je me suis dit, ah, mais oui, voilà, il y a un rapport.
Donc, tout à l'heure, vous parliez d'établir une biographie de Dracula. Et en fait, on a vu qu'il y a un corpus très large que vous citez à la fin de l'essai. Et on s'est posé la question de savoir comment vous avez défini, quelles sont les sources, les ouvrages que vous pourriez.
Dans l'exercice de biographie fictive qu'est la Bibliothèque Rouge, le premier truc à faire à chaque fois, c'est dire quelles œuvres on étudie. Donc, définir un canon, comme on dit chez les amateurs de Holmes, ou un corpus pour les universitaires. Pour Holmes, c'est une évidence a priori, c'est-à-dire c'est d'étudier uniquement les œuvres de Conan Doyle. Sauf qu'en fait, on se retrouve à étudier aussi les Arsène Lupin, puisqu'il y a Sherlock Holmes dedans, et puis les œuvres du fils de Conan Doyle, par exemple. Sur Dracula ou sur Frankenstein, c'était infiniment plus simple. Il y a un roman de Bram Stoker et un roman de Mary Shelley. Donc, un roman. Et puis, quand on a étudié... Alors, bon, sur Frankenstein, j'en suis resté au roman de Mary Shelley parce qu'il n'y a pas véritablement d'œuvre marquante qui reprendrait de manière intéressante ce mythe-là. Mythe qui, de toute façon, effectivement, à la fin de Mary Shelley, est bouclé, littéralement. Donc, il se tient en lui-même. Pour Dracula, en revanche, Adrien citait tout à l'heure Fred Saberhagen. Et effectivement, c'est intéressant, on a trouvé, on peut nous dire que ça manque, c'est pas pur, et on aurait pu n'étudier que le Dracula de Stoker. Mais puisque de toute façon, on était parti à faire une biographie, que donc Isabelle partait de Vlad Tepes, il fallait relier jusqu'au 19e. On s'est dit, comment on relie, qu'est-ce qu'il a fait Dracula entre Vlad Tepes et le comte Dracula qui s'oppose à Jonathan Harker et à Van Helsing. L'œuvre de Saberhagen s'est imposée parce que Saberhagen, justement, s'est lui aussi posé cette question et que on voit Dracula à la Révolution française, par exemple, dans une de ses œuvres et ainsi de suite, à différentes époques. Alors, en plus, bien entendu, tant qu'à faire, puisqu'on est dans la Bibliothèque Rouge, effectivement, Dracula, et on aime bien faire se croiser les héros. Dans Sherlock Holmes, il y a un croisement naturel entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Là, dans Dracula, effectivement, il croise par Saberhagen, il croise Sherlock Holmes. Et puis, on parle toujours du contexte. Alors, évidemment, c'est compliqué, Dracula. Je veux dire, il vit super longtemps, d'ailleurs, il n'est toujours pas mort. Du moins, il est toujours non mort, si j'ose dire. On s'est excusé, d'ailleurs, dans la préface, hein, parce que, étant donné qu'il est toujours parmi nous, on avait un peu peur qu'il se vexe. Donc, on a pris quelques précautions oratoires. Donc, oui, c'était très, très compliqué, parce que d'habitude, bah, c'est une vie d'homme, quoi. Voilà, ça dure 70 ans, c'est déjà assez long et à détailler, mais là, c'est... voilà, là, il y avait du terrain à couvrir. Hein. Et on a donc trouvé, Isabelle a trouvé quelques autres œuvres.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque où en plus on préparait la sortie du Dracula, Elisabeth Kostova avait sorti sa... Oui, voilà. Avait sorti donc sa version de Dracula. Donc ça nous a semblé tout à fait naturel de l'incorporer à notre biographie. On a aussi lu quelques ouvrages, notamment de Barbara Ambly, d'abord parce que c'est toujours un plaisir de lire des Barbara Ambly, et en plus parce qu'elle avait une version un petit peu différente et complémentaire du Dracula de Stoker, comme Fred Savéregel en avait déjà une qui était complémentaire. Donc du coup on s'est retrouvé avec un Dracula qui avait un petit peu trois origines, un Dracula un peu hybride, et en même temps pourquoi pas, parce qu'après tout Dracula tel qu'on connaît nous c'est l'œuvre de Stoker, mais si on le prend comme un personnage à part entière, Stoker n'a été qu'un biographe. Pourquoi il aurait été le meilleur biographe de Dracula et pourquoi pas les autres? Donc du coup, dans notre perspective Bibliothèque Rouge, ça se justifiait de ne pas se cantonner à Stoker, ce qui de toute façon aurait fini au bout d'un moment par être un peu redondant. Qu'est-ce qu'on vous aurait dit si on vous avait raconté le Dracula de Stoker? Enfin, il n'y a pas... Pour ça, lisez Stoker, quoi. C'est pas la peine. Enfin, on n'aurait pas eu beaucoup de plus-value là-dessus. Donc on a un petit peu étendu les choses sans pour autant aller piocher dans toutes les références littéraires qui incluent Dracula, ce qui aurait été pour le coup... une encyclopédie, et c'était pas non plus le but. Donc on a fait un petit peu des choix, pas complètement arbitraires, mais des choix assumés en tous les cas.
Oui, il faut toujours faire des choix. Et puis, ben, on a traité du contexte historique, puisque toujours dans cette collection-là, puisque c'est une biographie, voilà, c'est l'intérêt. Donc c'est l'intérêt de parler du contexte historique de Vlad Tepes. Et puis, quand on arrive au 19e, à l'époque de Stoker, ben, on a traité, ça nous a permis de traiter de la naissance, en fait, de l'image du vampire.
C'est
ça. À travers les dandys des années 1890 et les premiers textes de fantastique qui mettent à l'époque en scène des vampires avec des confusions enfin, que j'ai trouvées fascinantes entre la vie de certains de ces écrivains, même l'aspect physique de certains de ces dandys et leur œuvre littéraire, le plus étonnant étant le comte Stenbock. J'avoue que j'oublie son prénom pour l'instant. C'est quoi, Eric Stenbock, je crois. Qui était un comte lituanien, un jeune homme qui s'est installé en Angleterre. Et franchement, bon, on s'amuse toujours dans la Bibliothèque Rouge à faire semblant de croire que le personnage dont on traite existe. Mais alors, avec le comte Stenbock, bon, c'est juste un petit paragraphe dans le bouquin, hein, c'est juste une anecdote, mais on a vraiment l'impression que c'était un vampire, le mec. Il vivait la nuit. Mais c'est hallucinant, quoi. Ce mec, il a écrit quelques histoires de vampires. C'est vraiment un auteur tout à fait obscur, hein, mais qui était vachement rigolo à découvrir. Parce que, rapidement, il a pété les plombs, quoi. Et il s'est mis à vivre la nuit. Enfin, il était devenu super zarbi, quoi. Et sa mort... particulièrement étrange, puisqu'on l'a trouvé mort dans sa cheminée. Il a brûlé. Alors, est-ce que c'est que son père, lui a donné un bon coup de tison, et puis il est tombé dans la cheminée, il a le visage qui a cramé, c'est sans doute quelque chose comme ça, mais n'empêche que quelqu'un qui ressemble beaucoup à un vampire et qui meurt brûlé, ça, c'est bizarre.
Le personnage littéraire naît à l'époque victorienne, donc, tel que Bram Stoker l'a campé, à la même époque que d'autres créatures, donc, comme Frankenstein, comme le Dr Jekyll, comme d'autres personnages aussi historiques mais qui ont inspiré la littérature, comme Jack l'Éventreur. En quoi, à votre avis, Dracula, tel que vu par Bram Stoker, se démarque-t-il justement de ces autres personnages de la littérature victorienne, et en quoi, en fait, est-ce qu'il y a des liens qui les unissent?
Il faut savoir que dans la bibliothèque rouge, on a aussi fait un volume sur Jack l'Éventreur. Alors Jack l'Éventreur, c'est un autre problème, à savoir que c'est des vrais crimes et que c'est le criminel qui est imaginaire. Donc là, il a fallu qu'on écrive le bouquin de manière tout à fait différente. Vous ne pouvez évidemment pas faire la biographie de Jack, puisque Jack n'existe pas. C'est un mythe. Dracula, c'est le plus puissant de ces mythes qui ont été créés quand même à l'époque, à part Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes et Dracula, c'est vraiment les deux grands archétypes.
Oui, puis c'est aussi Dracula, pour le coup, par rapport aux exemples que tu as cités, c'est aussi celui qui va s'inscrire le plus dans une tradition mythologique, je vais dire, mythologie culturelle, qui prend ses racines quand même dans quelque chose qui préexiste. Alors que Jack l'Éventreur, c'est un serial killer, hein. Donc c'est pas du tout la même configuration. Et quant à la créature de Frankenstein, on est aussi sur, alors là peut-être tu es plus spécialiste que moi, mais c'est vrai que sur une, ça ne s'inscrit pas dans les mythes peut-être de la même manière que les vampires, etc. C'est une création
de l'idéologie du progrès, en fait. Les chercheurs anglais d'ailleurs disent souvent que c'est le premier livre de science-fiction. Bon, ça, on en discuterait. Mais ça peut être discuté. Parce que c'est le mythe prométhéen appliqué à ce que la science était en train de devenir. Je fais presque un coq à l'âne, mais là, je viens de lire un bouquin pour enfants de Arthur Tenor dans la collection. Ça s'appelle Les Voyages extraordinaires, c'est chez Plomb. Celui-là s'appelle « Sur les terres de Dracula ». Donc, ce n'est pas totalement un aparté, c'est pas hors sujet. Hein. L'univers d'Arthur Tenor, c'est que ça se passe dans un futur relativement proche où on peut visiter l'imaginaire, mais on peut le visiter physiquement. On rentre dans une machine, on se fait dématérialiser et rematérialiser dans l'univers imaginaire. Les premiers tomes que je n'ai pas lus, visiblement, visitent des bulles d'univers parallèles où il y aurait les mythes grecs et l'univers de la féerie. Et dans ce tome-là, je crois que c'est le quatrième, le personnage, qui est moitié homme, moitié elfe depuis le tome précédent apparemment, est chargé de retrouver la fille du président. Alors ça fait très peur d'ailleurs, parce que le président du monde, c'est le président de la Banque mondiale. Ça va être de mesure mieux, l'univers. Donc le président de la Banque mondiale a perdu sa fille. Sa fille devait aller en exploration dans l'univers imaginaire de Sherlock Holmes, donc l'Angleterre victorienne imaginaire, et elle s'est retrouvée dans une cave d'un château en Hongrie et est faite prisonnière par un certain vampire. Et ce qui est très intéressant, le bouquin est vachement sympa et tout, hein, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les humains se rencontrent, en fait, deux bulles d'imaginaire ont fusionné. Et en fait, il répond à ça, l'auteur, Arthur Tenor, il répond au comment faire pour que la Tepech et Dracula, ça soit le même personnage. Et bien lui, il fusionne l'univers de Vlad Tepech, donc médiéval, et l'univers de Sherlock Holmes. Et les deux univers n'en font plus qu'un, ce qui permet à Dracula, comme dans le roman de Stoker, effectivement, de se rendre dans le Londres victorien. Et alors bon, en plus, alors du coup, là, c'est un Londres victorien un peu particulier, parce qu'ils ont les Horse Guards ont une épée. Enfin, il y a une influence médiévale dedans, c'est vachement sympa. Mais il a trouvé un moyen très intelligent de faire coïncider ces deux imaginaires, parce que c'est toujours un peu le problème, et c'est le problème qu'on a eu, c'est comment faire le lien entre le médiéval Vlad Tepech et puis le 19e siècle Dracula.
Alors, attention, question vaste. Selon vous, quelle est la place du Dracula de Stoker dans l'histoire littéraire du vampire ?
C'est la place fondatrice, c'est tout. Non, mais c'est une place fondatrice.
C'est une place charnière, oui.
C'est le premier personnage important, c'est le premier mythe. Et je pense que si Dracula n'existait pas, ce roman de Stoker, je pense que La Carmilla de Sheridan Le Fanu et plein d'autres œuvres contemporaine ou juste après, aurait pas eu, enfin en l'occurrence juste après bien sûr, mais même d'autres œuvres plus ou moins contemporaines, auraient pas rencontré le même succès. C'est vraiment un catalyseur ce roman-là. En revanche, comme le disait, montrait bien Adrien, tout ça a vachement évolué. C'est d'ailleurs passionnant de voir comment ce mythe vampirique a complètement évolué. J'ai bien aimé ta formule, le vampire des champs et le vampire des villes. Parce que depuis, bon, on a publié donc ce bouquin sur la bitlite. C'est pas moi qui dirigeais cet ouvrage, du coup je l'ai lu que quand j'ai été chargé de faire la maquette. Du coup je l'ai trouvé vachement bien, ça m'a vachement intéressé. Parce que c'était une thématique que je connaissais moi pas particulièrement. Et puis je me suis rendu compte que ça, par contre, ça rencontrait une thématique qui me plaît, qui est la fantaisie urbaine. Et c'est tout à fait ça, en fait. La bitlite, c'est le vampire des villes, de même que la fantaisie urbaine, c'est la fée qui vient en ville. Et tu disais qu'on allait sans doute, tu as raison, hein, qu'on allait sans doute arriver à une impasse assez vite avec la bitlite. Au niveau vampire, oui. Ce que je suis en train de regarder, de lire et d'étudier, et je ferai peut-être, c'est pas encore sûr, mais je pense que je vais faire un bouquin de ce type sur la fantaisie urbaine, c'est que c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire, comme effectivement le thème vampire, la chasseuse en vampire, bon ben voilà, on va, Milady en publie 10 par mois, ça va être effectivement vite faire le tour quand même. Il y a plein d'auteurs qui sont en train de faire des variations. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors, des variations à base de steampunk, qui ont une autre mode assez forte en ce moment et que je trouve vachement passionnante aussi. Et puis d'autres créatures. D'utiliser des succubes ou des démons, vous me direz, tout ça a déjà été fait dans Buffy et dans Angel, hein, bien entendu. Hein. Et d'utiliser des fées, d'utiliser des différents mythes. De la même manière qu'on fait de la bitlite avec une chasseuse de vampires, mais il y aura peut-être une enquêtrice qui est une elfe ou quelque chose, des choses comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant la manière dont il y a plein d'imaginaires comme ça qui sont en train d'être réinventés de manière urbaine, comme la bitlite a réinventé le mythe vampirique.
Concernant le genre littéraire bitlite, justement, comment abordez-vous la continuité entre Dracula et la littérature vampirique actuelle, dont la bitlite, justement ?
Ben vas-y, c'est toi la spécialiste de ma fille.
Ça ne se résume pas.
Non, bien sûr que non. Ben non, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, cette façon dont on réinvente le mythe vampirique selon les époques. C'est fascinant, ça. Comme oui, tu l'as très bien dit, les années 30, les années 50, les années 80 avec la fantaisie urbaine et ce qui maintenant, Anne Rice, Suzy McKee-Charnas.
Moi, je ne suis pas si sûre que ça, qu'il y ait une continuité. Il y a une continuité dans le thème, puisqu'effectivement, on parle de vampires. Après, dans la manière dont le thème est abordé, dans la façon dont il est mis en scène, dont il est traité, je ne suis pas si sûre qu'il y ait une continuité, par contre. Parce que du coup, il y a vraiment quelque chose. Alors ça, pour le coup, Sophie Dabal l'explique très bien dans bitlite, mais il y a vraiment la bitlite qui devient un héritage de toute la tradition vampirique et de toutes ces bêtes qui mordent, parce que bon, bitlite, c'est quand même un peu ça, c'est toutes les bêtes qui mordent, avec l'héritage de la chiclite, avec des héritages un peu de Jane Austen qui vont se mélanger, et on est quand même assez loin pour moi de l'écriture, du format, de la narration, de ce qu'a pu faire Dracula de Stoker. On est quand même sur le Dracula de Stoker, sur un exposé de ce qui se passe, alors que dans la bitlite, on est sur la motivation des héroïnes, comment est-ce qu'elles gèrent, ce que tu as très bien dit tout à l'heure, leur vie privée, leur vie professionnelle, où généralement elles ne sont pas très bonnes pour faire ça d'ailleurs, et leur mission, où là par contre elles excellent. Et du coup on est vraiment sur quelque chose, je vais dire, mais qui est revendiqué comme tel en plus, mais de plus féminin, par rapport au Dracula de Stoker qui reste quand même, pour moi en tous les cas, plus factuel, où finalement Stoker il raconte une histoire.
Je disais tout à l'heure à Isabelle, ce qui m'amuse d'ailleurs, qui est vraiment un témoin de cette discontinuité, vous feuilletez Vampire, c'est tout le temps un vieux mec.
Oui.
C'est Dracula, c'est la figure de Dracula. Vous avez à travers tout ce bouquin un vieux mec qui fait comme ça. Vous regardez dans celui-là, c'est que des filles. Vous avez tout le temps des gonzesses. Il y a une discontinuité complète dans la thématique. Hein. Et malgré tout, bah, évidemment qu'il y a des liens, forcément, parce que c'est des vampires. Mais c'est fascinant comment ça a changé, comment ça a évolué. Alors que par contre, dans Anne Rice... Anne Rice est charnière, justement.
C'est, elle est précurseur. Que, ouais.
Elle est vraiment précurseur, parce que dans Anne Rice, il y a des vampires mecs, mais qui sont des dandies. Donc, elle est héritière, non pas du Dracula de Bram Stoker, mais des personnages de la même époque qui sont vampires, oui. Et qui sont des dandies.
Oui. Ce qui
n'était
pas le cas de Dracula, effectivement.
Qui n'est pas chez Stoker. D'ailleurs, dans le film de Coppola, par contre, il a essayé, et c'est très intéressant, il a essayé de faire le lien. C'est-à-dire que quand le comte arrive à Londres, il devient un dandy. Et c'est vachement intéressant, c'est très séduisant dans la thématique. Et Anne Rice, donc, il y a les vampires mecs dandy et des femmes fortes. Voilà. Donc, elle est vraiment à la charnière. C'est clair que c'est elle qui a...
Elle ouvre une porte.
Qui a incroyablement ouvert des portes, ouais.
Alors, on s'est rendu compte que récemment, là, sur les dernières années, plusieurs suites ont été écrites, plusieurs suites à Dracula ont été écrites. Donc, je pense à notamment Dracula l'Immortel, de l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker, hein, bon, d'Acre Stoker, et Ian Holt également. Anno Dracula de King Newman, L'invité Dracula TV Poli ou un vieil ami de la famille de Sarah Hagen. Alors, on s'est posé souvent la question de savoir pourquoi autant d'auteurs aient envie de faire une suite alors que, bon, finalement, on a quand même une fin dans Dracula. Je ne veux pas spoiler.
Il y a une réponse facile, c'est que ils avaient envie de gagner des sous, hein, surtout d'Acre Stoker, à mon avis. Je n'ai pas lu le bouquin, mais... Mais de toute façon, on a quand même envie, et nous-mêmes c'est ce qu'on a fait, on a envie de revenir à ce mythe. Et donc de le re-explorer, de le... Voilà, de le...
Ah, notamment Sarah Hagen, il en a écrit en plus.
Ouais.
Donc, comment expliquez-vous que...
Mais c'est ça, excuse-moi Adrien, pardon. Mais c'est ça la littérature populaire, c'est ça ce qui nous passionne, à la fois dans cette collection-là et dans la Bibliothèque Rouge. C'est qu'il y a des grands archétypes, des grandes figures qui naissent, et puis on a tout le temps envie d'y revenir, et notamment, et c'était le problème qui se posait à nous lorsque j'ai eu l'idée saugrenue de vouloir faire Frankenstein et Dracula, c'est qu'il y avait un seul roman. C'était contraire à l'idée de la collection, en fait, puisque cette collection, normalement, est censée étudier des héros récurrents. Il y a plein de James Bond, il y a plein de Sherlock Holmes, il y a plein d'Arsène Lupin, et ainsi de suite. Parfois même il y en a presque trop, les Fantomas ou Maigret, il a fallu faire des tris parce qu'il y a tellement de textes que fallait vraiment chercher ce qui était vraiment porteur d'un sens, d'un événement particulier, et qu'on ne pouvait pas traiter de tous les textes qui parlaient des personnages. Là c'était le contraire. Donc Sarah Hagen, il a transformé Dracula en personnage typique de la littérature populaire, à savoir qu'il revient dans plusieurs tomes. C'est une des choses que j'adore dans la Bitlite et ce qui se trame en ce moment autour de la Bitlite, c'est ce côté personnage qui revient. Personnellement, j'adore regarder des séries à la télé, et de même que j'adore là à nouveau voir qu'il y a émergence d'une nouvelle littérature populaire avec des héros récurrents, Anita Blake où il y en a je ne sais pas combien de tomes, Dresden Files où il y en a 11 et ainsi de suite. Enfin bon... Je trouve ça, c'est typiquement la littérature populaire, je trouve ça fascinant. Et c'est aussi typique de la littérature populaire, ce qu'a fait Dacre Stoker et d'autres, que de faire une suite. De tout temps, je veux dire, il y a eu combien autrefois de suites au Comte de Monte Cristo ou aux Trois Mousquetaires, et pas seulement par Alexandre Dumas lui-même ou par son fils, mais par d'autres auteurs. Il y a eu plein d'auteurs qui ont fait des suites. C'est aussi une richesse qui me fascine dans la littérature populaire, le fait de reprendre des personnages.
Pas que populaire, enfin, dans un autre genre, il y a aussi toutes les suites qui ont été données au roman de Jane Austen. Qui, bon, là, c'est de la littérature classique, mais qui est vécue en Angleterre comme de la littérature moitié classique, moitié populaire, parce qu'elle est très réappropriée. Beaucoup d'auteurs se réapproprient les thèmes, les personnages, soit de manière très géorgienne, victorienne, soit en faire des choses complètement loufoques avec Jane Austen et les zombies et les monstres de la mer et Mr. Darcy Vampire et compagnie. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Y a pas de... C'est intéressant justement de ne pas avoir cette scission entre le classique, le populaire, des choses bien, bien étiquetées comme ça. Et voilà, ça permet, ça rend les choses plus vivantes, je trouve, plus fluides.
Bah, c'est aussi une chose qu'on essaye toujours de faire dans la Bibliothèque Rouge. D'ailleurs, Dracula et Frankenstein sont censés être de la littérature classique de nos jours. Et nous, on les étudie comme si c'était de la littérature populaire. Quelle horreur! Et on essaye toujours de mêler la littérature dite grande littérature ou officielle avec la littérature populaire. J'avais bien aimé, t'avais trouvé une trace de Dracula chez qui, Amin Malouf ou quelqu'un comme ça?
Oui, le périple de Baldassare.
Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça, alors c'est juste une note, hein, quelque part dans notre bouquin, mais j'ai trouvé ça formidable que même chez Amin Malouf, il y a Dracula qui passe. Ah, waouh!
Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un marchand en fait qui se retrouve confronté à toutes sortes de péripéties et qui à un moment donné est à Constantinople et il va dans la résidence du voïvode de l'époque. Et alors, Amin Malouf ne cite jamais le nom de Dracula, mais effectivement, on comprend bien que c'est Dracula, la maison prend feu, là-dessus, Baldassare Embriaco, je crois. Prend le bateau, il se retrouve un moment en pleine tempête, avec un temps pas possible, des choses que le capitaine n'avait jamais vues, une brume qui se met autour du bateau, et finalement il arrive au crépuscule, à terre, et là, pouf, la brume disparaît, et donc on comprend qu'il y a eu un petit invité surprise sur le bateau. Voilà, mais c'est jamais dit, hein, mais c'est très bien fait.
Justement, comment expliquez-vous que Dracula et les vampires sont des créatures qu'on retrouve dans toutes les cultures ? En Europe, la mort et le sang sont des sujets tabous.
Quasi toutes.
Et malgré cela, les vampires sont présents depuis presque toujours, malgré justement ce côté tabou des thématiques vampiriques.
Bah, tu sais, j'ai aussi écrit ce que j'ai appelé le Dico féerique. Et la première fois que j'avais travaillé là-dessus, je m'étais rendu compte que finalement, c'est tout simplement l'imaginaire humain. Il fonctionne toujours un peu de la même manière. Même si vous êtes un indigène d'Hawaï ou un haut aristocrate de l'Empire du Milieu, ben, ma foi, il y a des ressemblances dans votre imaginaire. Je dis Hawaï parce que j'ai découvert qu'il y avait des elfes à Hawaï. Ils fonctionnent exactement dans cette légende. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, hein, pardonnez-moi. Mais ces créatures de la forêt fonctionnent exactement comme les elfes de l'imaginaire nordique européen. C'est étonnant. Ils n'ont pas du tout le même aspect. Et on est à Hawaï, ben, il fonctionne pareil. Ben, lorsque j'avais fait ces études-là, Isabelle, tout à l'heure, tu citais brièvement les Striges. Ben, les Striges, il y en a plein, tout autour de la Méditerranée, avec des noms différents qui d'ailleurs se ressemblent, parce qu'en Corse, c'est des Stregués. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas corse. Mais enfin, ça s'écrit Stregués. Et il y a comme ça, il y a Ce prédateur vampire existe à plein d'endroits autour de la Méditerranée. Donc il y a quand même, c'est l'imaginaire.
Puis un fond commun dans le fond.
Voilà, il y a un fond commun qui s'est disséminé. Il y a l'imaginaire qui fonctionne toujours un peu de la même manière, qui donne un autre truc par exemple qui est fascinant. C'est la manière dont l'imaginaire humain interprète l'orage. C'est la chasse sauvage. C'est-à-dire, c'est dans le ciel passent nocturnes et tempestueux, passent des cavaliers, et c'est là l'explication qu'on donne. Alors, la chasse sauvage, il y en a dans toute l'Europe, il y en a un peu en Afrique, et puis ben, du coup, on les a importés aussi sur le continent américain. Donc, c'est un mythe qui est vraiment très, très, très répandu. En fait, c'est juste l'orage qui roule. Hein. Mais on y voit des cavaliers, quelque chose comme ça.
Alors, Dracula apparaît dès son origine comme un personnage plutôt négatif. hein, pas très sympathique. Alors aujourd'hui, et notamment dans la Bible, on assiste à justement une transformation de ce vampire en, on va dire, en gentleman protecteur un petit peu. Alors, comment expliquer ce basculement?
Parce que les femmes adorent les bad boys.
Ouais. Oui, ils apparaissent comme bad boys, mais finalement, pas du tout.
Ouais. C'est ça. Donc, ce qui n'est pas vrai dans la vie, d'ailleurs. Mais bon, oui, non, je crois que c'est un glissement poétique, tout simplement. Il y a un glissement poétique, et puis le vampire s'adapte aussi. Enfin, donc les auteurs piochent dans la mythologie du vampire, le réinterprètent par rapport à leur conception personnelle et par rapport à, aux ambiances sociétales qui peuvent exister. Donc du coup, c'est pour ça que le vampire change de caractéristique, il va changer de thème. Effectivement, il était très dangereux, très menaçant à l'ère victorienne. Il devient un petit peu... Bon, c'est la nouvelle version du Brun Ténébreux, quoi, du Brun Ténébreux torturé qu'on peut avoir chez Angel, notamment, ou du Rebelle Peroxydé qu'on peut avoir chez Spike, avec effectivement toujours un côté comme ça, borderline, et en même temps séduisant, parce que finalement, bah, pas si méchant que ça, quoi.
Écoutez, merci beaucoup pour avoir répondu aux questions. Je ne sais pas si le public a peut-être des questions à poser, justement, sur le sujet. On est là, donc n'hésitez pas.
Non, allez-y, hein. On peut essayer de répondre.
Vous disiez que en fait c'était Anne Grace qui avait inventé le, qui avait incorporé les femmes dans le vampire, mais Carmilla était bien avant.
Oui, mais Carmilla c'est un roman. C'est un roman. Le truc, il faut. Ce qu'il faut toujours. Enfin, ce dont nous on parle toujours, c'est de littérature populaire. Il ne faut jamais séparer donc ça. La fonction imaginaire, la fonction commerciale. C'est des livres qui se vendent. Il n'y a rien de honteux à ça. Et Anne Rice a eu un succès colossal. Voilà. Il y a peut-être bien eu des auteurs qui ont fait des choses du même style que Anne Rice un peu avant. C'est possible, hein, et que ça n'a pas marché. Du coup, il n'y a pas eu vraiment d'influence.
Et puis, Anne Rice est rentrée dans la psychologie aussi, ouais. Effectivement, des personnages, ce que n'avait pas fait pour le coup.
Oui, c'est pas le cas dans Carmilla.
Justement, à propos des précurseurs, bah, justement, on parlait que la Beatling, là, je ne sais plus comment on appelle ça, ou des vampires romantiques qui tombent amoureux de vivants. Mais justement, en fait, c'est pas tant nouveau que ça. Parce que déjà, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà eu le texte, je ne sais plus qui l'avait écrit, de la morte amoureuse.
Théophile Gautier.
Voilà. Et donc, alors qu'à une époque où les, officiellement, les vampires continuaient de sortir de leur tombe, c'était des morts vivants, répugnants, tout ça. Et déjà, à l'époque, déjà, ça commençait.
Oui, alors après, dans Théophile Gautier, c'est vrai que c'est une vampire. Donc, puisque c'est Clarimonde qui effectivement cherche à séduire le père Romuald, elle y arrive. Effectivement, donc il met fin à ses jours, si on peut dire. Et en la regrettant, effectivement, parce que malgré tout, c'était une vampire amoureuse, c'est pas n'importe quoi.
Mais il y a ça aussi chez Jacques Cazotte aussi, le diable amoureux, à la même époque, c'est aussi un esprit féminin. Mmh.
C'est vrai qu'après, je pense qu'il y a toujours des précurseurs dans toute œuvre qui va se démarquer. On a ça aussi dans un tout autre registre sur Harry Potter, avec Harry Potter. On a à un moment donné cette œuvre qui arrive et qui éclate tout, alors que si on regarde bien, bah, il y avait déjà des choses avant, il y a eu des choses pendant, et il y a eu alors pléthore de choses après, parce que pour le coup, tout le monde surfe sur la vague, avec des résultats, bon, plus ou moins réussis. Parce que du coup, comme à chaque fois qu'on sort sur une vague, il y a un peu de tout qui sort. Mais c'est vrai qu'il y a des précurseurs. C'est normal, après, les... Ben, un auteur n'écrit pas sur rien, donc il part de ce qui existe aussi et le retravaille dans son propre imaginaire, dans sa propre thématique. Bram Stoker a écrit Dracula parce qu'il en rêvait. Il faisait des rêves, rêves sur rêves sur rêves sur rêves de Dracula, et au bout d'un moment, il y a une sorte de catharsis là-dedans, et il a écrit pour pouvoir sortir ce rêve de lui aussi.
Comme pour Lovecraft, lui aussi, il écrivait ses livres à la passée rêve.
Moi, Lovecraft, je suis un peu réfractaire, mais je ne vous cache pas. Oui, je suppose qu'il y a ça. Il y a Chasse et Stephen King aussi qui écrit un petit peu pour se décharger de ce trop-plein, de ce bouillonnement intérieur.
D'autres questions, peut-être? Oui.
Moi, je ne sais pas si je vais bien savoir la verbaliser. Quand vous évoquez l'origine de Dracula, Je voulais savoir si on avait établi un lien avec un phénomène psychologique, enfin, le phénomène des terreurs nocturnes, qui apparemment dans le folklore européen et même mondial, aurait donné le mythe des succubes, des incubes au Moyen-Âge, et finalement on retrouve ce thème du visiteur nocturne qui vient prendre la vie d'une façon ou d'une autre, et qui est très bien illustré dans le Hurlat de Maupassant. Et je me demandais s'il n'y avait pas là une origine ou quelque chose à explorer.
Mais dans le Dracula de Stoker, si, si, totalement, et dans le Dracula de Stoker, il n'y a pas que Dracula comme vampire. Il ne faut pas oublier qu'à un moment...
Il y a les trois femmes.
Ben oui, il y a les trois femmes aussi. Absolument. Il y a d'autres présences menaçantes et nocturnes. Et notamment, oui, il y a les trois femmes.
Une petite question. En fait, je me demandais si, comme avec les contes de Perrault, les contes de Grimm, on ne peut pas faire un parallèle avec Dracula, qui serait un peu comme le loup, donc le chipon loup, par exemple, ce prédateur sexuel aussi. Est-ce que... À la base, c'était pas aussi les paroles didactiques, peut-être.
Ouais, toujours dans Dracula, il y a les trois femmes, mais encore avant que Jonathan Harker arrive au château, il y a des loups, il y a quelque chose.
La nuit de Valpurgis.
En fait. Absolument, c'est pendant la nuit de Valpurgis. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est si fort, hein, ce roman de Stoker. Oui. Hein, c'est qu'il y a. Là encore, on l'a vraiment étudié à la loupe. Il y a certes qu'un roman, mais il est très 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 riche, et il y a beaucoup beaucoup de mythes et de peurs qui sont mises en scène lors du voyage de Jonathan Harker.
Après, est-ce que c'était délibéré de la part de Stoker de peut-être réutiliser à sa manière ce mythe là ça je sais pas, mais
il y a quand même le coup assez frappant de Lucy qui va chercher des enfants toujours.
Oui, c'est vrai.
Et qui ramène des enfants au cimetière.
Oui, c'est vrai.
Il me semble assez pertinent comme exemple où on a ce parallèle direct justement avec le loup qui vient chercher l'enfant.
C'est vrai, oui.
Un peu cajoleur, un peu. Voilà.
Ouais. Moi j'avais une question, c'est vrai que j'avais pas jusqu'à aujourd'hui vu les choses sous cet angle-là. Mais donc un terme récurrent cet après-midi, c'est le fait qu'on ancre le vampirisme dans une littérature populaire et que finalement. L'émergence de la littérature vampirique, c'est aussi l'émergence d'une véritable culture ou sous-culture de littérature populaire. Mmh. Et la question que je me posais, c'est, n'est-ce pas, le vampire n'est-il pas le vecteur d'une vulgarisation, d'un processus de vulgarisation, par exemple, de concepts métaphysiques, de concepts, par exemple, kantiens, je pensais, d'Emmanuel Kant, qui aurait permis justement de faire descendre justement un certain élitisme bourgeois et intellectuel justement dans des masses populaires et qui s'accompagnerait, comme vous le dites, d'un processus, comme tu l'as dit tout à l'heure Adrien, avec la société industrielle, donc les cultures de masse, mais également une volonté consciente ou inconsciente des auteurs de vouloir se servir de concepts justement faisant appel à l'inconscient collectif, à ce que sans commettre d'anachronisme, Bourdieu appelait l'habitus de l'époque, nous dire voilà, quels sont les concepts philosophiques qui étaient discutés dans des cénacles et donc se servir de cette littérature pour les instiller dans des cultures populaires. Est-ce que
c'est pas volontaire, c'est inconscient de la part des auteurs.
C'est inconscient.
Simplement qui baigne. Faut toujours lutter contre cette idée de l'auteur dans sa tour d'ivoire. C'est une fable, évidemment. L'auteur, il n'est pas dans une tour d'ivoire. L'auteur, il est dans la société, il est dans son temps. Et du coup, il en témoigne. Alors, des fois consciemment, c'est le cas chez Mary Shelley, c'est conscient. Il y a un côté démonstratif chez Mary Shelley. En revanche, chez Stoker, je pense que c'est inconscient. Toutes les choses qu'il brasse, il se trouve qu'il a beaucoup de talent, donc il les brasse avec énormément de talent. Il y a d'autres bouquins de l'époque, comment il s'appelle, Vernet le Vampire, qui là est vraiment de la pure littérature populaire. Bon, on se souvient de ce machin-là que parce qu'il y a eu Dracula juste après, et que donc c'est un précurseur, on considère maintenant comme un précurseur de Dracula. S'il n'y aurait pas eu Dracula, Vernet le Vampire, on l'aurait tout à fait oublié. Hein. Et donc, C'est souvent, enfin, je pense que c'est souvent inconscient.
Bien sûr, mais est-ce que ouais, moi je pensais que ça reflétait une sorte de haine de soi que Kant évoque sous forme de la chose en soi. C'est pour cela que je voyais le rapprochement de dire que finalement ça aurait pu être une sorte de métaphysique kantienne, mais entre guillemets pour les nuls. Quoi.
Mais c'est ça la littérature populaire. C'est transformé en lieu commun, donc en ce qui est le plus facile à communiquer. Des idées, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de choses illisibles rapidement en littérature populaire, parce que c'est des idées médiocres, ils ont que le porter. Et puis, ce qui survit de la littérature populaire, ce qui continue, c'est justement souvent des choses qui ont vulgarisé des idées qui finalement ont beaucoup de résonance.
Une dernière question ? Merci, ouais. Allez-y.
Bon, moi, je vais parler ce coup-ci du Dracula historique, que j'avais lu dans un bouquin, d'ailleurs, c'est ceux qu'on trouve justement dans un rayon, là, donc je n'ai plus le nom du bouquin, sur une anecdote concernant Dracula historique, donc Vlad Tepes, où il avait invité tous les mendiants, les vieillards, les infirmes à un banquet. Et puis dans les nouvelles, voilà, attendez. Attendez la fin, vous verrez. Et puis, il les invite, il leur pose une table avec plein de victuailles, il festoie comme c'est pas permis. À la fin, Dracula leur demande, est-ce que vous voulez que... comment il disait ça? Cessez de vivre dans la misère, que je mette enfin fin à ces souffrances terrestres. Et puis, ils disent bien sûr encore, oui, quand on veut. Hein. Et puis pensant qu'il allait faire un don généreux, tout et tout, et résultat, il a fait fermer toutes les portes du bâtiment, il a foutu le feu. Et quand on lui a posé la question pourquoi il a fait ça, il a dit « Ah ben comme ça, ils n'ont plus une charge pour la société ». Alors, c'est pas pour dire, mais à l'époque, moi j'ai fait tout de suite le rapprochement, un système où on extermine ceux qui sont considérés comme des parasites du système, les handicapés, les vieux, les mendiants... Mais j'ai l'impression que Dracula, c'est un peu le précurseur de tyran à l'idéologie très d'entrée à droite.
Si vous voyez. Je sais pas si on peut parler de précurseur sur ce genre de choses. Après, ce sont des tendances humaines qui sont particulièrement violentes, particulièrement difficiles. Des despotes, des tyrans, vous en aurez toujours. Ça fait partie de la psyché humaine, il y en aura toujours. Après lui, il avait le pouvoir. Il se considérait comme seul maître sur ces terres après Dieu. Donc effectivement, il l'a fait pour les indigents, il l'a fait aussi pour les boyards. Donc il a mis tous ses seigneurs dans une... il les a invités pour un banquet, et une fois qu'ils étaient bien repus, il les a effectivement emmenés pour se faire construire un château jusqu'à que leurs habits tombent en ruine en les nourrissant chichement. Après, il y avait... Et je n'excuse pas du tout, que ce soit bien clair. Mais il y avait chez Vlad Tepes, en dehors de cette cruauté particulièrement difficile à comprendre, il avait aussi à cœur une très grande efficacité, une très grande sécurité pour ces territoires. Il voulait que les gens se sentent en sécurité chez eux, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal vu le nombre de meurtres et de tortures qu'il leur faisait subir. Mais il y a cette anecdote, alors je ne sais pas si elle est apocryphe ou si elle est réelle, mais on dit que dans une des villes, dans Targoviste, je crois, donc la capitale de la Valachie, on pouvait, toutes les nuits, il y avait une coupe d'or qui était posée sur la fontaine pour que chaque voyageur puisse se désaltérer à la fontaine en prenant la coupe. La coupe d'or restait toutes les nuits en place, personne ne l'a jamais volée, personne n'aurait même jamais pensé à la toucher, sans quoi, évidemment, vous imaginez ce qui serait arrivé à ces pauvres malheureux.
Ah, donc, la sécurité, ça a toujours marché.
Mais donc oui, après, c'était un fanatique, quoi, c'était un fou. C'est bon.
Il y a aussi le fait que quand
Vlad Tepes
était dans c'était un stratège.
Tout à fait, hors pair. Tout à fait, mais ils étaient toujours en sandwich.
Et du coup, les autres, malgré sa tyrannie et l'excès, les autres pays fermaient les yeux puisqu'ils faisaient partie d'une des seules frontières efficaces contre une invasion.
Oui, je pense qu'il y avait un petit peu un côté comme ça. qu'on connaît tous, même dans la politique actuelle. On ne va pas voir ce qui se passe parce que finalement, ça nous arrange. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a dit en début de questions-réponses. Effectivement, la Valachie était vraiment en sandwich entre l'Empire ottoman et la Hongrie, avec d'un côté les catholiques, de l'autre les ottomans. Et l'intérêt premier de Vlad Tepes, qui était souverainiste, d'ailleurs il est considéré comme un héros à ce titre-là dans son pays, c'est d'avoir maintenu la souveraineté du territoire coûte que coûte, en s'alliant une fois avec l'un, une fois avec l'autre, avec des retournements de situation, en faisant des campagnes militaires extrêmement dures, où il en est revenu à revenir sur ses pas, incendier les villages, polluer les eaux pour que ses assaillants fassent repousse chemin. Effectivement, ouais. Mais du coup, c'était un stratège hors pair et qui fait froid dans le dos, quoi.
Bon, si on sait pas de parole, que nous allons terminer à table ronde. Merci beaucoup, André, François et Isabelle, pour avoir répondu à ces questions. Merci.